Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour chers amis, nous voici maintenant à la deuxième leçon de ce trimestre pour la semaine du 4 au 10 avril 2009 et cette leçon a pour titre « La foi ». Un verset nous est proposé tout d'abord dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Et voici la pensée centrale. La foi est le principe qui guide le chrétien dans sa vie. Elle lui indique comment vivre et entrer en relation avec Dieu et les autres. Même si l'adhésion intellectuelle aux doctrines est importante, la foi l'est bien davantage. C'est ce que nous examinerons cette semaine. La foi ne doit pas être confondue avec une conviction d'ordre rationnel. La foi, au sens biblique du terme, ne se fonde pas d'abord sur la raison. Elle ne se fonde pas davantage sur les émotions, même si celles-ci ont leur rôle à jouer. La foi est une assurance profondément enracinée qui touche la personne tout entière. C'est un principe qui gouverne la vie. C'est le moyen par lequel il est possible de saisir et de s'approprier les promesses d'un Dieu invisible et pourtant présent. Selon le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, la foi est l'attestation ou la démonstration ou la substance de choses qu'on ne voit pas. William Johnson, spécialiste de l'Épître aux Hébreux, suggère que la meilleure des traductions est la suivante. La foi est un droit d'accès à ce que nous espérons, l'assurance de ce que nous ne voyons pas. Commençons cette étude par le dimanche 5 avril 2009 et il s'agit de la foi, un don de Dieu. Qu'est-ce que la foi ? En voici une définition simple. La foi est une croyance faite de confiance et d'obéissance en la réalité, la puissance et l'amour de Dieu tels qu'ils sont révélés dans ses actes et dans ses promesses. Quel don magnifique au sein d'un monde aussi déchu et brisé que le nôtre ! Il n'est pas surprenant que beaucoup de chrétiens estiment que la foi est le plus merveilleux des dons. La question qui se pose maintenant est la suivante. Avons-nous jamais essayé de découvrir d'où venait notre foi? Pourquoi avons-nous foi en Dieu et pas certaines personnes de notre connaissance? Est-ce la façon dont nous avons été élevés? Nos parents étaient-ils croyants? Est-ce l'étude de la Bible et la lecture des livres de la Bible qui nous ont convaincus qu'il existait un Dieu aimant? Avons-nous rencontré des arguments philosophiques satisfaisants, nous ayant préparés à faire le « saut » entre guillemets de la foi? En dernière analyse, la foi est un miracle, c'est un don de Dieu. Et nous allons voir comment l'apôtre Paul met l'accent sur le don de la foi. Nous lisons ce premier texte de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 8. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Tout comme il n'est pas possible d'être pleinement humain sans amour, il n'est pas possible de réaliser pleinement ce que Dieu attend de nous sans la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, nous dit l'apôtre Paul dans Hébreux 11, verset 6. L'Épître aux Hébreux n'enseigne pas que sans la foi, il est difficile de plaire à Dieu ou que lui plaire prendra du temps. Il est au contraire déclaré que c'est impossible. En bref, il n'existe pas de substitut à la foi. C'est par la foi que les héros de Dieu ont vécu par le passé, et c'est par la foi que son peuple doit vivre aujourd'hui. Cette citation était de George Knight. Voici une question pour terminer cette journée. Comment se préparer à recevoir le don de la foi? Quel changement faire dans notre vie pour nous rendre plus réceptifs à ce don? Et à ce sujet, nous allons lire quand même un texte tiré de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 10 et le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un autre texte tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et le verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci: Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. On entend parfois les gens dire qu'ils aimeraient avoir la foi. Quel changement devrions-nous faire pour être plus réceptifs à ce don? Et un dernier texte pour conclure cette journée, tiré de l'évangile de Marc, chapitre 9 et le verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Nous terminons ainsi cette journée du dimanche. Nous abordons immédiatement le lundi 6 avril 2009 et cette journée a pour titre « Le fondement de la foi ». Un cantique bien connu nous rappelle ceci: « Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi ». Ne l'oublions pas, Jésus-Christ est le fondement et la source ultime de notre foi. Mais même si ce don de la foi est un mystère qui dépasse notre entendement, nous avons reçu des indications sur la façon dont elle s'éveille et se fortifie. Au temps biblique, des hommes et des femmes ont vécu des expériences soudaines qui leur ont fait entreprendre le voyage de la foi. Paul est certainement l'exemple le plus remarquable. D'autres évoquent une prise de conscience graduelle de la façon dont Dieu les a conduits, donnant un but et une direction à leur vie. Il ne fait pas de doute que l'expérience est un élément essentiel à la vie spirituelle. Mais la foi ne se passe pas de contenu, et la révélation des Écritures joue un rôle majeur dans notre enseignement dans la foi. Maintenant, quel est le rôle des Écritures dans l'expérience de la foi du croyant? Et là, nous vous proposons tout d'abord un premier texte que nous tirons de l'Évangile de Jean, chapitre 5, et le verset 39. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Un autre texte que nous trouvons dans l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître, chapitre 3, les versets 14 et 15. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Les Écritures sont d'une extrême importance et il serait dommage de les négliger. Mais il n'est pas possible d'exprimer, par une quelconque formule, comment elles participent exactement à éveiller et à construire la foi. Même la célèbre définition d'Hébreux 11 sur la foi ne nous le révèle pas. Hébreux 11, verset 1er, ne nous fournit pas une définition de la foi, mais plutôt une description de la façon dont elle opère. L'apôtre ne donne certainement pas ici une explication psychologique de la foi. il souligne plutôt les deux caractéristiques essentielles que la foi rend possible. Faire de l'espérance une réalité et rendre visible l'invisible. Voyons maintenant ce que révèle l'épître de Jacques, chapitre 2, les versets 18 et 19, sur la foi, et pourquoi elle est davantage qu'une adhésion intellectuelle. Jacques, chapitre 2, versets 18 et 19, voici. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Pourquoi la lecture de la Bible transforme-t-elle la vie de certaines personnes alors que d'autres déclarent qu'elle ne les touche pas? Que dire à une personne qui lit la Bible et l'apprécie en tant que texte littéraire, mais déclare ne pas y entendre la voix de Dieu? Eh bien, c'est sur cette réflexion que se termine cette journée du lundi. Maintenant, nous avons le mardi 7 avril 2009, où il est question d'exercer sa foi. Les auteurs des évangiles, lorsqu'ils racontent les miracles de guérison du Christ, mettent en valeur des facteurs de foi et non de magie. Les personnes guéries étaient encouragées à mettre leur foi en pratique. « Qu'il vous advienne selon votre foi », a déclaré Jésus, Matthieu 9, 29. Cependant, d'extraordinaires expériences portant indéniablement l'empreinte d'interventions divines, miraculeuses, n'ont pas toujours eu la foi pour résultat. Lorsque nous observons Dieu à l'œuvre dans notre vie et celle d'autrui, notre foi se fortifie. Mais souvent, la foi précède les interventions divines. La foi s'attend à voir Dieu à l'œuvre. Dieu a promis d'agir par notre biais et en notre faveur si nous avons foi en lui. Prenons-le donc au mot. Et voici d'après quelques textes ce que signifie vivre par la foi. Et nous avons tout d'abord un premier texte que nous trouvons dans l'Épître aux Galates, chapitre 5 et le verset 6. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Un autre texte tiré de l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 17 et 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Un autre texte tiré de la première épître de Jean, chapitre 5, les versets 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et voyons maintenant quels sont les résultats d'une absence de foi. Nous trouvons ceci dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, les versets 17 à 19. Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans. Contre qui? Contre ceux qui ont péché, et ce sont les mêmes qui sont morts dans le désert. Dieu a fait ce serment, « Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. » Pour qui a-t-il fait ce serment? Pour ceux qui n'ont pas obéi. Et en effet, nous voyons ceci, ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Ce texte indique que Paul parlait des anciens Hébreux qui avaient reçu la promesse du salut lors de l'alliance contractée avec Dieu. Ils auraient pu bénéficier de la vie abondante dans le Sauveur que fait naître la foi lorsqu'elle est mise en pratique, mais leur expérience et leurs échecs nous rappellent que, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ainsi s'achève cette journée du mardi. Avril 2009, qui a pour titre « Grandir dans la foi ». Notre foi s'approfondit quand, face aux doutes et aux obstacles, nous allons de l'avant en proclamant les promesses de Dieu, indépendamment des sentiments qu'il nous arrive parfois d'éprouver, ainsi que des circonstances plus ou moins hostiles. La foi est davantage qu'un simple sentiment. C'est un principe qui transcende les émotions éphémères humaines. La foi permet de faire ce que Dieu attend de nous, même si par nous-mêmes nous aurions agi autrement. Pour grandir en grâce et apprendre à mieux connaître Jésus-Christ, sa vie et son caractère, saisissons-nous de toutes les occasions qui s'offrent à nous pour que s'approfondisse notre foi. Notre foi en Jésus grandira à mesure que nous le connaîtrons mieux. Par exemple, en méditant sur sa vie, sur son amour. Honorons Dieu puisque nous disons être ses disciples en nous tenant près de lui. Et voyons quel défi Pierre a lancé aux croyants. Nous trouvons ce texte dans sa deuxième épître de Pierre, chapitre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Voyons comment l'Église de Thessalonique a relevé ce défi. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu et à votre sujet, et ce n'est que juste puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Voyons en quoi maintenant la foi fait partie des armes de Dieu, décrites justement dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous lirons chapitre 6, les versets 14 à 16. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le but du chrétien est d'arriver à la maturité de la foi. Ce cheminement prend toute la vie. Lorsque nous faisons l'expérience des bénédictions liées à cette croissance et que nous demeurons fermes dans la foi, nous nous demandons pourquoi il peut arriver d'être faible dans la foi. Nous mettons tous du temps pour grandir spirituellement. Chacun sa vitesse de croisière. Attention à l'orgueil et au jugement d'autrui. Dieu est celui qui fait jaillir la semence et la foi, et c'est à lui que nous devons notre croissance spirituelle. Sans perdre de vue cette vérité, sachons que nous participons néanmoins à créer l'environnement nécessaire à une telle croissance. Certaines fréquentations, certains lieux ou certains médias n'ont-ils pas un impact négatif sur notre foi? Souhaitons-nous y renoncer? Notre réponse déterminera l'importance que nous accordons à notre foi. Ainsi s'achève cette journée du mercredi 8 avril 2009. Thank you. Et nous avons maintenant le thème qui nous est proposé pour le jeudi 9 avril 2009. Il s'agit de la foi en Jésus-Christ. Quand nous croyons en Dieu, nous désirons mieux le connaître et nous sommes impatients d'assimiler ce qu'il nous a révélé. Il est naturel que nous voulions faire de notre foi dans le Créateur et de ses interventions en notre faveur une présentation structurée. Nous voulons également nous assurer que nous comprenons quelle est sa volonté. Notre foi ne s'enracine pas seulement dans un système doctrinal, mais surtout en Jésus-Christ. Nos doctrines ne sont pas une fin en soi. Elles nous aident à mieux comprendre Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Nous communiquons par le langage uniquement parce que les mots que nous prononçons et rédigeons ont une structure grammaticale. En un sens, les doctrines de la foi chrétienne ont un rôle comparable à celui de la grammaire. C'est à l'aide de doctrines que nous donnons une structure au contenu de la foi. Saint Anselme, théologien médiéval, a déclaré que « la théologie est la foi cherchant à se comprendre elle-même ». Voyons ce que nous dit le Nouveau Testament sur l'importance d'un enseignement fiable. Et nous avons un texte que nous trouvons dans la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 4 et le verset 16. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Une doctrine saine est vitale, mais une doctrine et une théologie qui demeurent des théories sans vie ne peuvent sauver. Il est même possible d'être théologien sans être croyant. La foi n'est pas seulement le fait d'adhérer à un certain nombre de croyances bibliquement correctes, c'est avoir confiance en la personne dont parlent les Écritures. Et lisons maintenant en quoi notre salut dans cette vie et dans la vie future est relié à la foi en source de la vie. Lisons dans Jean chapitre 3 et le verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Voyons sur quelles convictions fondamentales l'Église s'est construite. Nous avons ce texte dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, nous lirons les versets 15 à 19. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ce passage de Matthieu 16 a été utilisé pour prouver que l'apôtre Pierre était le fondateur de l'Église chrétienne. Cette idée n'a pas de fondement biblique. Au contraire, le Christ est cette pierre sur laquelle l'Église est construite. C'est la foi en cette pierre, c'est-à-dire la conviction inébranlable que Jésus, Fils de Dieu, est le Sauveur. Et cette conviction fait de l'Église ce qu'elle est, c'est-à-dire l'Église de Dieu et non une institution humaine. Si quelqu'un nous dit « Je crois en Jésus, je crois en ses enseignements » et pourtant « Je ne peux m'empêcher de douter », que lui répondre ? Comment l'aider dans sa recherche de Jésus-Christ. Ainsi s'achève ce jeudi 6 avril. Thank you. suivant au vendredi 10 avril 2009. Et pour aller plus loin, nous avons aujourd'hui une citation d'Ellen White tirée du Meilleur Chemin. Voici ce qu'elle dit. L'apôtre Pierre exhorte ses frères à croire dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 3,18. À mesure que les enfants de Dieu croissent en grâce, ils obtiennent une intelligence de plus en plus claire de sa parole. Ils discernent dans ses pages sacrées les lumières et les vérités toujours nouvelles. C'est l'expérience qu'a pu faire l'Église de Jésus-Christ de tous les temps, et c'est celle qu'elle fera jusqu'à la fin. Par la foi, nous pouvons plonger nos regards dans l'avenir et compter sur le moment béni où, selon les promesses de Dieu, nous connaîtrons un développement constant de notre intelligence. Les facultés humaines seront alors unies à la sagesse divine et toutes les puissances de notre être mises en contact direct avec la source de la lumière. Nous pouvons nous réjouir à la pensée que tout ce qui, dans les voies de Dieu, nous a angoissés ici-bas, sera alors éclairci. Voici maintenant quelques textes à méditer pour terminer cette semaine. Hébreux 11 présente une galerie de portraits des héros de la foi. Nous voyons cependant les défaillances de caractère et de comportement dont la plupart ont témoigné. Quels encouragements tirons-nous de leurs erreurs et de leurs péchés quand nous sommes tentés d'abandonner notre foi ? La foi d'un grand nombre d'entre nous a connu un jour ou l'autre une période de crise dont nous sommes ressortis renouvelés. Que faire quand il semble que des membres de notre famille ou de notre Église traversent une crise semblable? Quels défis notre foi rencontre-t-elle? Sont-ils d'ordre intellectuel, comme lorsque la science s'oppose à la religion? Ou sont-ils un support avec l'environnement dans lequel nous vivons, nous travaillons ou pratiquons nos loisirs? Peut-être sont-ils d'ordre relationnel? Pourquoi est-il important d'affronter directement ces défis? Nul besoin d'avoir la foi pour croire en ce qu'il est possible de prouver. Elle est nécessaire pour croire en ce qu'on ne peut prouver. Pourquoi est-il important de réaliser qu'indépendamment de tout ce qui prouve la véracité de nos croyances, nous ne comprenons jamais certaines choses? Et voici maintenant le résumé qui nous est proposé pour cette semaine d'études. La foi est une expérience. Elle est aussi certitude et confiance. Les Écritures jouent un rôle dans l'éveil, l'approfondissement et le maintien de la foi. Mais la foi n'est pas simplement une croyance, c'est un principe qui nous guide dans notre vie, devant Dieu et devant les hommes. Ainsi s'achève cette semaine d'études. Nous vous donnons donc rendez-vous, chers amis, à la semaine prochaine. À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient. Jesus is Lord.